Le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin.
Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité en ce vendredi, nous sommes le 16 octobre. Le couvre-feu mis en place dès ce soir dans la métropole de Lyon, nous verrons quelles sont les conditions et conséquences. Conséquences notamment sur les restaurateurs, également sur le monde du spectacle, sur l'organisation d'événements. À noter que Gilles Evans notamment abandonne son idée d'organiser les épreuves sportives du salon et quitte à Lyon. Le rythme des admissions à l'hôpital pour Covid-19 s'est encore accéléré hier. De nouveaux chiffres dans cette édition. Ludovic Bertin reconnaît son implication dans le meurtre de Victorine Dartois. Nous écouterons dans ce quart d'heure lyonnais Boris Dufaux, qui est le procureur de la République adjoint, qui a donné les détails sur l'audition du suspect. Tunal Tinel est toujours en Turquie. En effet, les autorités locales refusent de lui restituer son passeport. Grégory Doucet rencontrait hier les associations commerçantes de Lyon pour leur dévoiler les différents axes économiques de sa mandature. La région propose quant à elle son aide aux maires sur le volet sécurité. Et puis nous parlons sport à la fin de cette édition et nous parlons également des ambitions de la chaîne de restauration brasserie Ninkasi qui prévoit plusieurs projets malgré un contexte économique difficile.
Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon.
Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. Un couvre-feu sera mis en place dans la métropole de Lyon dès ce soir minuit et à partir de demain samedi, il s'appliquera de 21h à 6h sur les 59 communes du Grand Lyon, comme dans 7 autres métropoles. Pour se déplacer, il faudra être muni d'une attestation et avoir une bonne raison. Par exemple, les déplacements d'ordre professionnel ou des impératifs familiaux seront toujours autorisés. En cas de non-respect du couvre-feu, des amendes sont prévues, comme pour le masque. Celles-ci seront de 135 et en cas de réitération, en cas de récidive, l'amende sera portée à 1 500 €. Le couvre-feu, bien que très douloureux pour notre vie sociale et notre économie, est proportionné à la situation sanitaire dans nos métropoles, écrit sur les réseaux sociaux l'ancien président du Grand Lyon. Pour éviter une deuxième vague de la crise sociale, les aides déployées par l'État et les collectivités locales doivent être à la hauteur de la situation exceptionnelle, a conclu David Kimmelfeld. Pour Mathieu Vianney, rien ne sert de se lamenter, il faut s'adapter. Le chef 2 étoiles de la mer Brasier va se mettre à la mode américaine, comme dans les restaurants de New York, avec un service de 18h15 à 20h45. Surtout, il faut garder le moral. Fin de citation. Le monde du spectacle aussi fortement touché par ce couvre-feu. Certains s'adaptent, comme le théâtre des Célestins. Les horaires de certains spectacles ont déjà été modifiés. C'est le cas de Suzy Stork qui se jouera le samedi à 18h et La Vie de Galilée qui aura lieu à 17h. La grande enquête de Quai du Polar est annulée. Elle devait se dérouler ce week-end. L'événement avait été programmé à cette date après l'annulation au printemps du festival Quai du Polar. Malgré le couvre-feu annoncé pour 4 semaines, la fête des Lumières reste tout à fait d'actualité. C'est ce qu'indique Grégory Doucet. Le maire de Lyon envisage d'allonger l'événement du 4 au 8 décembre de manière à faciliter son accès au plus grand nombre en ciblant prioritairement les 2 grands parcs, la Tête d'Or et Blandan. Gilles Evans, qui organise le salon Équite à Lyon et accueille chaque année près de 180 000 visiteurs à Eurexpo au moment de la Toussaint, a dû se résigner à annuler définitivement son événement. Dans un premier temps, seules les épreuves sportives avaient été maintenues. Équite à Lyon n'aura pas lieu du tout. L'édition 2021 est déjà annoncée du 27 au 31 octobre de l'année prochaine, si les conditions sanitaires, bien sûr, viennent à le permettre. En raison du renforcement des mesures sanitaires, la 5e édition du Village des recruteurs, prévue les 21 et 22 octobre, est reportée au 2 et 3 décembre.
Lyon demain ? La radio sans pub.
Le rythme des admissions à l'hôpital pour Covid-19 s'est encore accéléré. Hier, 103 nouveaux patients admis au cours des dernières 24 heures dans le Rhône. 571 patients hospitalisés pour Covid-19. 41 patients ont pu regagner leur domicile. Dans les services de réanimation, après un début de semaine relativement stable, un cap a aussi été franchi avec 20 nouvelles admissions, portant à 112 le nombre de patients hospitalisés en réanimation. 6 patients décédés en 24 heures dans le Rhône. Le nombre de décès depuis le début de la pandémie s'élève à 587 en ce qui concerne les décès à l'hôpital depuis le 1er mars. La circulation du virus continue d'être très intense également dans le Rhône, avec un taux d'incidence qui atteint 394 cas pour 100 000 habitants, taux de positivité 17,4% dans le département pour la semaine du 6 au 12 octobre. Ludovic Bertin reconnaît son implication dans le meurtre de Victorine d'Artois. Ce père de famille de 25 ans est mis en examen pour l'enlèvement, la séquestration et le meurtre de Victorine à Villefontaine. Ludovic Bertin a avoué le meurtre, mais il nie en revanche le mobile sexuel. Notez que Ludovic Bertin est connu pour une dizaine de faits de délinquance, notamment pour des cambriolages dans l'Est lyonnais. Il est également connu pour des affaires de vol avec violence et des petites affaires de stupéfiants. Chauffeur-livreur de profession, le jeune homme est également connu pour de multiples délits routiers. Officiellement libre depuis le 6 juillet, Tunal Tinal est toujours en Turquie. Les autorités locales refusent de restituer le passeport du mathématicien enseignant à l'Institut Camille Jordan, qui rassemble l'Université Claude Bernard Lyon 1, le CNRS, l'École Centrale, l'Université Jean Monnet Saint-Etienne et l'INSA de Lyon. Cette décision empêche Tunal Tinal de rentrer en France et donc de reprendre ses activités à Lyon et Saint-Etienne. En mai 2019, Tunal Tinal avait été incarcéré par les autorités turques qui lui reprochaient d'avoir participé à un événement organisé à Villeurbanne par l'Association des Amitiés Kurdes consacrée à la situation du peuple kurde en Turquie.
Lyon Demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville.
Grégory Doucet rencontrait hier les associations commerçantes de Lyon pour leur dévoiler les différents axes économiques de sa mandature. Le soutien à l'économie locale se déclinera selon 5 grands axes. Un environnement favorable, la diversité de l'offre, le soutien des commerçants et artisans, leur valorisation et leur accompagnement dans la transition écologique et sociale. Des conseils consultatifs économiques et d'arrondissement seront mis en place pour écouter, faire remonter les besoins et faire émerger des solutions. Les terrasses provisoires, initialement prolongées jusqu'au 1er novembre, pourront finalement rester sur les places de stationnement jusqu'au printemps, sous réserve de respecter une charte d'engagement, dont celui de ne pas utiliser de chauffage. La région propose, elle, son aide aux maires sur le volet sécurité. Laurent Wauquiez a détaillé son pacte pour la sécurité. 3 aides sont prévues. La première concerne la mise en place de centres de vidéosurveillance, des centres de supervision urbains, jusqu'à 100 000 euros d'aide. Le deuxième volet concerne l'installation de caméras. Le troisième volet concerne l'équipement et l'armement des police municipale. La région annonce financer 50% des dépenses avec un plafonnement à 30 000 euros par commune ou intercommunalité. L'objectif étant d'acheter des gilets pare-balles, armes de poing, caméras piétons et autres pistolets à impulsion électrique.
Lyon Demain, la radio des Lyonnais qui font bouger la ville.
La chaîne de restauration brasserie Ninkasi prévoit plusieurs projets ambitieux malgré les difficultés causées par la crise du coronavirus. Des projets et un bilan de l'année 2020 expliqué au micro de Charlène Robert.
Avec une année 2020 qui était pleine d'ambition mais qui a surtout été pleine de rebondissements, Christophe Fargier, dirigeant et fondateur de la chaîne de brasserie Ninkasi, nous offre son bilan ainsi qu'un panorama de ses projets futurs. Vous parliez en janvier 2020 d'ouvrir un restaurant à Villefranche-sur-Saône, Aubière, Dijon, ainsi qu'à proximité du stade de l'Olympique Lyonnais. L'ouverture de ceux-ci ont-ils réussi ? Est-ce que le contexte pandémique a eu un impact sur ces projets ?
Alors, il a eu un impact sur les projets. Villefranche a ouvert juste avant l'arrivée du virus, mais on a le chantier de OL Valley qui a été décalé et certains projets qui n'ont pas abouti, notamment à Aubière. Par contre, l'année 2021, pour l'instant, est bien orientée. On a beaucoup de projets qui sont dans les tuyaux.
Vous aviez la volonté d'étendre Ninkasi au national et plus seulement au régional, avec notamment des franchises.
Oui, alors on commence à sortir de la région. On va avoir une ouverture à Dijon au mois de décembre. On a encore beaucoup d'ouvertures qui sont prévues dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Mais actuellement, on cherche très activement un emplacement sur Paris pour mettre un drapeau sur la capitale.
Ninkasi, c'est des bars-restaurants avec des burgers, mais pas que. Ce sont également des produits comme de la bière, mais également d'autres produits comme du whisky ou encore du gin.
Oui, alors on a la particularité d'avoir une fabrique à Tarare où on développe des bières et des spiritueux. Et effectivement, on peut les retrouver dans nos établissements. Après, l'activité de nos établissements, elle est à plus de 70% sur de la restauration. Généralement, en moyenne, le bar ne représente que 30% de notre chiffre d'affaires.
Et au-delà de l'aspect alimentaire et boisson, l'Ninkasi, c'est aussi un acteur culturel qui soutient les artistes via une pépinière. La saison culturelle a-t-elle souffert de la crise ?
Alors, la saison culturelle, elle s'est arrêtée de manière brutale au mois de mars. On a essayé de maintenir une activité avec le live stream, avec de la résidence d'artistes dans notre salle. Mais aujourd'hui, ça reste extrêmement faible par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire. Pour vous donner un ordre de grandeur, sur une saison, c'est 1700 événements organisés. Et actuellement, c'est à l'arrêt total.
Le Ninkasi, c'est aussi une entreprise éco-responsable qui ne fonctionne qu'avec des produits locaux. Et vous avez travaillé avec la start-up Génétique. Vous avez actuellement une note globale de 77%. Quels sont les critères de notation et quels sont les domaines dans lesquels vous devez évoluer ?
Les critères, c'est la gouvernance, l'environnement, toute la partie sociale et aussi une dimension économique, hein, parce que en fait, le RSE, c'est bien trois dimensions. Les domaines dans lesquels on doit évoluer, c'est la mixité générationnelle. On est une entreprise avec beaucoup, beaucoup de jeunes et une sous-représentation des personnes plus âgées. On a de gros progrès à faire sur l'insertion de personnes en situation de handicap. On a beaucoup de progrès à faire sur le numérique responsable. Effectivement, on génère beaucoup de contenu, la vidéo, ça prend de la place sur les serveurs. Toute notre logique de site internet, il y a un gros sujet sur le numérique responsable. Et puis il y a un point sur lequel ça a été une grosse surprise, on s'avérait qu'on n'était pas si performant que ça, c'est l'écosystème. En fait, on a développé depuis plus de 20 ans des relations extrêmement fortes avec nos fournisseurs, mais elles ne sont absolument pas contractualisées. Elles sont fondées sur la confiance, mais aujourd'hui, il y a une nécessité de contractualiser ces relations sur des durées longues pour vraiment sécuriser nos fournisseurs. Donc c'est un peu les chantiers sur lesquels on va se lancer sur l'année qui vient pour progresser.
Et toujours sur l'éco-responsabilité, vous avez des franchises, comment vous faites pour qu'eux respectent votre charte d'éco-responsabilité ?
Eh bien, ce sont des commerçants indépendants, donc la seule façon d'y arriver, c'est de les convaincre de l'intérêt de la démarche. Mais généralement, quand ils viennent travailler sous enseigne Inkasi, qui veulent participer à l'aventure, ils adhèrent au projet aux valeurs. Donc, il n'y a pas de grandes difficultés. Après, il y a parfois des sensibilités plus ou moins fortes sur certains sujets. Mais d'une manière globale, tout le monde suit le projet de l'entreprise.
Pour revenir à la crise, en termes de chiffres, quelles sont les conséquences du coronavirus sur l'Inkasi ?
Bah, on devait faire un peu plus de 30 millions d'euros de chiffre d'affaires. On a 6 millions d'euros de chiffre d'affaires qui se sont évaporés. Donc on va être légèrement en dessous de 25 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc c'est du chiffre d'affaires qu'on ne rattrapera pas. Ça nous a aussi fortement impacté puisqu'on a eu des pertes importantes. Donc on a des problèmes de trésorerie qui nous ont contraints à aller actionner les prêts garantis par l'État. Voilà, une fragilisation de l'entreprise d'un point de vue financier avec des fonds propres qui diminuent et une dette qui progresse très fortement.
Mais malgré toutes ces difficultés, vous restez quand même ambitieux et vous avez des objectifs pour l'année 2021 et voire même sur 5 ans. Quels sont-ils ?
Bah oui, on reste ambitieux parce qu'on continue à croire dans le projet et puis on veut rester positif, optimiste. Donc notre stratégie, ça va être d'ouvrir un nouvel outil de production en 2023, d'aller mettre un drapeau sur Paris en propre, de développer le réseau sous le format de la franchise et de construire une belle marque qui sort du cadre régional pour devenir une marque nationale.
C'était Christophe Fargier, fondateur et dirigeant des brasseries Ninkasi, qui nous a fait son bilan de l'année 2020, présenté les nouveautés et fait part des projets pour les années à venir pour la chaîne.
Merci Charlène. Les féminines de l'ASVEL encore à l'arrêt. La Ligue féminine de basket a annoncé en effet les reports des matchs que la formation lyonnaise devait disputer ce samedi à Mont-de-Marsan face à Basketland pour la 5e journée et également le match devant Saint-Amand, match en retard de la 2e journée qui devait être disputé mercredi prochain à Madobonnet. Enfin, Corinne Diacre a dévoilé sa liste de 24 joueuses retenues pour les prochaines échéances des Bleus dans le cadre des qualifications à l'Euro 2022 et surprise, parmi les 6 joueuses de l'Olympique lyonnais retenues par la sélectionneuse des Bleus, la milieu de terrain lyonnaise Amandine Henry, à qui Diacre avait pourtant donné le brassard de capitaine lors de son arrivée en 2017. Eh bien, Amandine Henry, cette fois-ci, ne figure pas dans la liste. En revanche, la jeune Melvin Mallard, déjà présente lors du dernier rassemblement des Bleus, est à nouveau retenue. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. Restez prudents, bien entendu, et attention au couvre-feu à partir de ce soir minuit et dès 21h samedi.